Radio Kapi.
Le journal présenté par Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, 25 morts, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu lundi non loin de Kapolowé dans la province du Haut-Katanga. À la base de ce drame, selon l'administrateur du territoire de Kambové, l'excès de vitesse. Beaucoup d'habitants de Kinshasa se plaignent de fortes chaleurs ressenties ces jours-ci sur la ville. Le mercure atteint 32 degrés Celsius selon l'Agence nationale de météorologie. La température va jusqu'à 37 selon d'autres sites internationaux de prévision. Notre invité, c'est le représentant de l'UNICEF, de l'UNESCO plutôt, en RDC. Azaias Barreto affirme que son agence s'engage à appuyer davantage les écoles du Haut-Katanga dans la lutte contre le choléra par l'octroi des kits de lavage de mains aux écoles de cette province. Madame, Messieurs, bonsoir. 25 personnes ont péri dans un accident de la circulation survenu lundi dernier, non loin de Kapolowé, dans la province du Haut-Katanga. À la base de ce drame, selon l'administrateur du territoire de Kambové, l'excès de vitesse au lendemain de celui survenu sur la route qui va de Sakania à Kasumbalesa, qui a coûté la vie à 18 Kimangistes. À Lubumbashi, le récit de Jean-Gandou Kabongo.
Ce grand bus de transport en commun venait de Lubumbashi à destination de Kolwezi dans le Lualaba. Arrivé à la hauteur du village Kakila, non loin de Kapolowé, se trouvant sur une pente et voulant éviter un camion remorque venant dans les sens opposés, le chauffeur qui roulait à vive allure a perdu le contrôle du volant et a percuté un professeur qui était au bord de la route, avant de finir sa course dans un endroit marécageux plein de roseaux. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir d'une part certains passagers se débattre pour sortir de ces bus couchés et d'autre part, quelques courageux se courir les uns et tirer les corps de ceux qui ont succombé. Sur place, on a enregistré 25 morts et 6 blessés. Parmi ceux qui sont morts, se trouvent aussi bien les hommes, les femmes ainsi que de nombreux enfants. Leurs corps ont été amenés à la morgue de l'hôpital d'Ako Alikassi, situé à une vingtaine de kilomètres. Quant aux blessés, ils sont admis à l'hôpital de référence de Kapolo Egar dans le secteur de la Loufira. D'après l'administrateur du territoire de Kambov, dont dépend ce secteur, il y a 5 passagers qui en sont sortis sains et saufs. Il s'agit du chauffeur, d'une dame et de ses 2 enfants ainsi que d'un policier. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle sur Radio Kapi ce soir, des agents des services d'assiette de plusieurs ministères mécontents du traitement leur réservé par les autorités réclament le paiement de 4 mois d'arriéré de leur prime de rétrocession, soit 10% de recettes mobilisées. Ces agents de l'État ont manifesté ce mercredi sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa devant le ministère des Finances. L'un d'entre eux s'est confié à Cynthia Bachizinabizana.
La revendication est liée d'abord à la prime de rétrocession que le ministère ou bien le service générateur des recettes encaisse. Dès qu'il réalise des recettes, en principe, on doit rétrocéder le 10% pour les services poseurs d'actes qu'on appelle. Alors, ça fait déjà 4 mois que ces services d'assiette n'ont pas bénéficié de ces primes de rétrocession. C'est pourquoi nous sommes là pour revendiquer nos droits. On a épuisé presque toutes les voies, mais aujourd'hui, les agents sont descendus sur terrain pour réclamer ces droits.
Vous espérez qu'à l'issue de cette manifestation être reçue par le ministre?
Bon, en principe, il est censé à nous recevoir. Surtout les sénégalistes, ils doivent les recevoir pour trouver une issue là, pour décanter la situation. Bon, les services sont nombreux. Il y a d'abord le ministère des Mines, il y a l'environnement, il y a l'hydrocarbure, il y a Pétentique, et puis l'urbanisme, il y a beaucoup de services et l'environnement.
Dans un communiqué publié aujourd'hui à Kinshasa, le directeur de cabinet du ministre des Finances affirme que ce retard fait suite à la mécanisation de la loi des finances 2024 qui a entraîné du coup la fermeture de la chaîne de la dépense publique en janvier dernier et par ricochet le retard dans l'émission des dossiers d'ordonnancement. Notez que les salaires du mois de février pour les fonctionnaires de l'État ne sont pas encore payés. Aucune explication n'est donnée jusqu'ici par les autorités. Des fortes chaleurs presque tout le monde s'en plaint ici à Kinshasa. Le mercure atteint par moment 32 degrés selon l'Agence nationale de météorologie. La température ressentie va jusqu'à 37 selon d'autres sites internationaux de prévision. Comment les habitants de Kinshasa vivent cette canicule? Qu'en dit actuellement la Metelsat et que recommandent finalement les médecins? Tentative de réponse dans ce reportage de Babel Mpongo Masimango et Blaise Shindani Kambala.
Il fait chaud à Kinshasa, très chaud même, se plaignent les habitants de jour comme de nuit. Dans leur humour notoire, Vekino en rajoute, l'en chargé de régler la température ces derniers temps serait un stagiaire. Delicia, une élève, nous dit comment elle vit cette situation.
On n'arrive pas, il n'y a pas du courant. Pour moi, mettre de la fraîcheur, vraiment on souffre.
Comment tu passes tes nuits?
Vraiment très mal, on n'arrive même pas à dormir. Avec des moustiques, il faut mettre encore des moustiquaires. Mais avec ça aussi, ça rajoute encore de la chaleur.
Qu'est-ce qui explique ces températures élevées? Augustin Taguisabo, chef de service de la prévision à la Metelsat.
Ce sont des chaleurs normales de la saison. Dans l'atmosphère, il y a certaines anomalies au vent qui est en train de dissiper. Les petits nuages qui peuvent se former, nous devons connaître des pluies abondantes. Au mois d'avril, nous devons nous préparer davantage pour ne pas tomber sur les inondations.
Pour bien passer cette période, Dr Anissé Kipassa, spécialiste en santé publique, recommande ceci.
Il faut beaucoup boire de l'eau. Certaines périodes de la journée, rester sous l'ombre, porter des habits de coton légers, prendre de fruits qui contiennent beaucoup d'eau.
La déshydratation peut entraîner des fatigues, de maux de tête, un dysfonctionnement des reins et même la mort pour les personnes vulnérables.
Merci Babel Mpongo Masimango pour ces précisions. Et puis plusieurs pharmacies de la cité de Tchoumbé sont fermées actuellement à plus ou moins 150 km de la cité de Lodja dans la province du Sankuru. Le médecin inspecteur provincial qui revient d'une mission dans la zone affirme que ces pharmacies ont été scellées par le parquet pour le manque d'autorisation de fonctionnement, la vente de produits périmés et la mauvaise conservation des médicaments essentiels. Pour en parler, retrouvons en Bougimaï Esther Ndalafina.
Plusieurs pharmacies ont été scellées depuis la semaine dernière par le parquet sur ordre du médecin inspecteur provincial, raison pour laquelle certains habitants de la cité de Tchoumbé parcourent de longues distances à la recherche de médicaments pour les soins des malades. Les propriétaires de certaines pharmacies se plaignent pour le manque à gagner. John Lomengue est propriétaire de 3 pharmacies.
On a scellé les pharmacies et par après, on a compris, non, il fallait donner si c'est le permis d'ouverture. J'ai 3 pharmacies, même là où j'avais le permis d'ouverture, on dit non, c'est l'état est déjà passé. Nous sommes au début de l'année, d'où viennent des documents, dans des moments très difficiles comme ça.
Contacté, Dr Sila Omiteo, médecin inspecteur provincial, reconnaît avoir ordonné la fermeture de ces pharmacies pour les raisons suivantes.
À Tchoumbé, presque 80% de visites pharmacies qui n'avaient pas d'autorisation de médicaments fonctionnaient illégalement. La deuxième raison, il s'est avéré qu'il y a des produits que le gouvernement donne gratuitement. Mais malheureusement, ils ont été retrouvés dans différentes officines, pas dans toutes. Et en plus, on a retrouvé des médicaments périmés dans des officines.
Le médecin inspecteur provincial signale que les inspecteurs seront déployés pour poursuivre avec le contrôle de conformité dans cette cité. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
On en vient maintenant au phénomène Mobondo qui a occasionné notamment la présence d'enfants non accompagnés et la crise alimentaire pour des femmes dans le Grand Bandundu. Révélation faite à Radio Okapi par la coordonnatrice de la Commission nationale des droits de l'homme du Kwilu. Emilienne Owele demande par conséquent au gouvernement congolais de mettre fin à tous ces phénomènes. À Bandunduville, Irène Mbomaluzolo.
Dans une interview accordée à Radio Okapi ce mercredi, la coordonnatrice provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH du Kwilu, a dénoncé les difficultés tant socio-économiques que sécuritaires auxquelles font face les femmes et les enfants dans la région du Grand Bandundu touchée par le phénomène Mobondo. Emilienne Owele en appelle à la responsabilité des autorités compétentes pour des solutions qui s'imposent.
Nous, les femmes de Bandundu en particulier, et la femme de la province du Kwilu en général, au Kwango, au Kwilu, Maïndombe. Nous sommes en train de vivre des phénomènes impossibles avec le phénomène Mobondo. Aujourd'hui, la femme est en difficulté. Une situation qui a entraîné la crise, une situation qui a entraîné la famine. La femme est en train d'être tuée. Et à Bandundu, les grands Bandundu, nous n'avons jamais vu le phénomène des enfants non accompagnés. Aujourd'hui, nous avons des enfants non accompagnés. Leurs parents ont été tués dans les atrocités de Mobondo. Comme mettre fin avec l'histoire de Mobondo au Kwango, au Kwilu, Maïndombe.
Finalement, que Mylène Owele s'est ainsi exprimée à l'occasion de la célébration du mois de mars dédié à la femme. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, 17 députés provinciaux du Nord Kivu déplorent actuellement l'occupation des localités stratégiques du territoire de Rutshuru par les rebelles du M23. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui à Goma, ces élus désapprouvent les replis dits stratégiques des FRDC, laissant ainsi certaines localités conquises sans combat. Des précisions avec la députée provinciale Thérèse Nafissa Ramazani, élue de Walikale.
Nous sommes indignés de l'avancée de l'agression du Rwanda sous couvert du M23 qui ne cesse de prendre le contrôle de plusieurs localités et agglomérations comme Nyanzale, Kikuku, Kibirizi et Vichumbi pour ne citer que cela, en dépit d'une présence significative des éléments FARDC et des différentes forces de la communauté internationale. Nous sommes en désaccord total des replis dits stratégiques des FARDC qui laissent le couloir libre à l'ennemi et qui lui permettent d'élargir son champ d'action. Cette stratégie donne un souffle financier au M23-RDF qui contrôle actuellement les différentes mines en territoire de Rutshuru, riche en coltan, or, pyrochlore. Ces conflits armés ne cessent de jeter sur le chemin de l'exode des milliers de populations qui vivent dans des conditions inhumaines. Par ailleurs, il s'observe la montée de la criminalité dans les villes et territoires. Ainsi, nous recommandons au président de la République de poursuivre sans relâche les efforts diplomatiques pour mettre fin à l'agression rwandaise et au pillage de nos ressources naturelles.
Notez que jusqu'aujourd'hui, les FRDC n'ont fait aucune déclaration sur la chute de la Rwindi et ses environs malgré toutes nos tentatives. Nord Kivu, encore un calme précaire, est observé ce mercredi à Sake, groupement de Kamuronza, dans le territoire de Masisi, après une nuit très agitée par des bombardements des rebelles du M23 sur la cité. Pas de victimes signalées, mais des sources locales redoutent que cette situation perturbe dangereusement la navigation lacustre qui relie la ville de Goma à la cité de Minova au sud Kivu voisin. Et puis la coordination du Parlement des jeunes de Beni s'est dit vivement préoccupée par la montée de l'insécurité marquée par l'avancée des rebelles du M23 vers le Grand Nord Kivu. Dans une déclaration faite hier après-midi, cette structure citoyenne recommande au président Félix Tshisekedi Tshilombo de tout mettre en œuvre afin de récupérer toutes les entités qui sont occupées actuellement par les rebelles du M23. Tout député provincial qui sera attrapé en train de monnayer sa voix auprès des candidats gouverneurs de province ou sénateurs sera sévèrement sanctionné. L'alerte est tirée à Kinshasa par la ministre de la Justice après l'entretien avec le président de la République. Selon Madame la ministre de la Justice, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a instruit à veiller à travers le procureur général près la Cour des cassations. Selon le calendrier réaménagé de la CENI, les élections des sénateurs et des gouverneurs auront lieu respectivement le 21 et le 28 avril prochain. Rose Mutombo, ministre de la Justice, au micro de Jeff Ngoy.
Le président de la République m'a demandé d'instruire le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tous celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. C'est vrai que la corruption c'est une infraction très difficile à établir étant donné il y a un corrupteur et un corrompu, mais ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour.
Actualité internationale.
Un tribunal rwandais a rejeté ce mercredi matin la demande de restauration des droits civiques de Madame Victoire Ingabire, figure de l'opposition au président Paul Kagame. Cette décision judiciaire l'empêche enfin de se présenter à l'élection présidentielle du 15 juillet prochain. L'opposante, âgée de 55 ans, qui ne peut pas faire appel avant 2 ans, avait été déchue de ses droits après sa condamnation en 2013 à 15 ans de prison ferme pour conspiration contre les autorités du pays et la manipulation du génocide qui a fait 800 000 morts en 1994 parmi la minorité Tutsi. Et puis le Parlement européen a adopté ce mercredi la loi sur la liberté des médias, première législation de ce type destinée à protéger les journalistes, à lutter contre les ingérences politiques dans les décisions éditoriales, mais aussi à renforcer davantage la transparence sur la propriété des organes de presse. Le texte a été largement adopté par les eurodéputés réunis aujourd'hui en session plénière à Strasbourg par 464 voix pour 92 contre et 65 abstentions.
L'invité.
Notre invité, c'est le représentant de l'UNESCO en RDC. Isaías Barreto affirme que son agence s'engage à appuyer les écoles de la province du Haut-Katanga dans la lutte contre le choléra par l'octroi des kits de lavage de mains aux établissements scolaires de la province. Il s'entretient avec Jean Ganduka Bongo.
Isaías Barreto, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi l'UNESCO appuie cette école en kit de lavage de mains?
L'UNESCO n'appuie pas seulement cette école, mais c'est environ 100 écoles de la province du Haut-Katanga qui vont recevoir des kits de lavage de mains dans le cadre de notre accompagnement aux efforts de la province, du PROVED, du ministère provincial de l'éducation dans la lutte contre les maladies hydriques, notamment contre l'épidémie de choléra dans la province. Et cette cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie symbolique de remise de ces kits, mais nous avons presque 500 kits qui seront remis aux différentes écoles de la province. Mais notre accompagnement aux efforts du gouvernement provincial ne se limite pas seulement à la distribution de ces kits. Nous avons 3 composantes. Bien sûr, la distribution de kits. Il y a aussi la formation et la sensibilisation des enseignants et des chefs d'établissement en ce qui concerne la lutte contre l'épidémie de choléra. Quand les enseignants et les chefs d'établissement sont bien préparés, ils peuvent davantage aider les élèves. Et il y a aussi une campagne de sensibilisation via radio pour arriver au niveau des communautés, des maisons, des foyers pour aider dans la lutte contre l'épidémie de choléra au niveau de la province.
Dans la province du Haut-Katanga, le choléra n'est pas seulement à Lubumbashi. Il a été déclaré à Kasumbalesa, à Likasi et dans d'autres entités. Est-ce que l'UNESCO peut aller aussi dans d'autres territoires en dehors de ceux qui sont à côté de Lubumbashi?
Nous sommes prêts à amener notre contribution à cet effort du gouvernement provincial. Bien sûr, nous sommes prêts à accompagner ces efforts, non seulement ici, mais aussi ailleurs. Ça fait presque 60 ans que nous sommes ici en RDC. Et nos actions ne se limitent pas au centre-ville, nos actions vont au-delà, y compris bien sûr dans les villages et dans les écoles les plus éloignées. Et donc nous sommes prêts à amener notre contribution là où cette contribution pourra être utile.
Dans l'entretemps, vous serez dans ces différentes écoles, quand exactement? Y a-t-il un calendrier?
On ne sera pas dans tous les 100 écoles, mais il y a les structures du ministère provincial qui certainement amèneront les kits à ces différentes écoles.
Et les formations se tiendront de quelle manière?
Il s'agit d'une formation des enseignants, des chefs d'établissement, qui sera organisée toujours en partenariat avec le ministère provincial. Et nous allons travailler avec le ministère dans les détails de ce genre de formation. On ne fait pas les choses tout seul, c'est toujours en partenariat avec le gouvernement central, dans ce cas avec le gouvernement provincial. Et donc c'est comme ça que nous allons travailler.
Le choléra n'est pas la seule maladie qui soit d'origine hydrique. Comment comptez-vous également soutenir les écoles pour combattre les éventuelles maladies qui viendraient de cette source?
Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pas seulement pour lutter contre le choléra. Ces kits et ces formations et la campagne de sensibilisation, c'est pour lutter contre les maladies hydriques. Et donc, c'est-à-dire le choléra et d'autres maladies hydriques. On est toujours prêt à accompagner les efforts du gouvernement là où nous pouvons être utiles. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied et en partenariat avec le gouvernement provincial. Là où il y a un besoin, nous sommes bien sûr prêts à étudier, à analyser la possibilité d'accompagner. Mais, encore une fois, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement contre le choléra, mais c'est contre les maladies hydriques.
Ben, nous savons également que le seul lavage de mains ne suffit pas pour éradiquer une épidémie. Il y a également les questions liées à l'environnement dans lequel évoluent ces écoles. Est-ce que cet aspect des choses a été aussi épinglé chez vous?
C'est un départ aujourd'hui. L'une des méthodes les plus efficaces et les plus simples de lutter contre les maladies hydriques comme le choléra, c'est exactement le lavage des mains. C'est la sensibilisation, la formation des enseignants, la sensibilisation de la population. Et c'est là où nous sommes en train de travailler. Mais aujourd'hui, c'est un point de départ. Il faut commencer avec des activités qui peuvent amener des résultats concrets et des activités qui peuvent atteindre un bon nombre donc, de bénéficiaires. Et c'est ça ce qu'on vient de faire aujourd'hui, encore une fois, en partenariat avec le Proved. Et nous tenons vraiment à féliciter donc, la province, le Proved, pour ce partenariat avec l'UNESCO qui nous permettra vraiment d'amener une contribution importante dans les efforts du gouvernement provincial dans la lutte contre les maladies hydriques au niveau de la province.
Isaias Barreto, je vous remercie.
Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir.
C'était l'invité de Radio Capi, le représentant de l'UNESCO en RDC, Isaias Barreto, interrogé à Lubumbashi par Jean Gandou Kabongo. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Capi. Merci de l'avoir écouté.